Nous poursuivons ce thème de la chair opposée à l'esprit que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Nous avons surtout vu dans l'Ancien Testament des exemples d'opposition, notamment Caïn et Abel. On sait combien Caïn était attaché aux choses de la terre et c'était l'homme selon la chair et Abel attaché aux choses d'en haut, les choses de l'esprit. On l'a vu avec Lot et Abraham, Lot qui était attiré par Sodome et Gomorre, par le monde et ses plaisirs, et Abraham qui se ressourçait dans la montagne de Dieu, qui représente la présence de Dieu. Ésaü et Jacob, encore une tension entre Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse d'une manière misérable en méprisant les choses de Dieu, et Jacob qui s'attachait aux promesses de Dieu. Saül et David, on voit combien Saül, dans son orgueil, s'est éloigné de Dieu. Et David n'a fait que grandir dans les choses de l'esprit. Et puis Géasi et Élisée, lorsque Géasi a menti, lorsque la lèpre de Naaman lui a été collée et que Élisée a dévoilé tout cela, Élisée, l'homme de l'esprit, Géasi, l'homme de la chair. Nous voyons constamment donc dans l'Écriture, on a vu dans l'Ancien Testament, mais ce matin j'aimerais voir dans le Nouveau Testament et particulièrement l'enseignement de Jésus concernant la chair et l'esprit. Et pour enseigner sur la chair et l'esprit, Jésus va parler à Nicodème ici d'un sujet très important qu'on appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau. Alors dans Jean chapitre 3, nous voyons un homme d'entre les pharisiens qui s'appelait Nicodème. Nicodème signifie « victorieux du peuple ». Nous savons qu'il était pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans la religion la plus austère, peut-être le courant religieux le plus étroit. Vous savez, les pharisiens, ça signifiait les séparés. Ils s'étaient séparés du peuple pour Dieu et ils suivaient à la loi, à la lettre, la loi de l'Ancien Testament. La Bible dit aussi qu'il était chef parmi les Juifs, c'est-à-dire qu'il avait des responsabilités dans le Sanhédrin, qui était la cour suprême de la nation juive. Et quand il y avait des conflits que les responsables des synagogues n'arrivaient pas à traiter, ou des conflits dans la nation, eh bien, il y avait une cour suprême qui était au-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle le chef des Juifs, était au-dessus des autres pour pouvoir statuer dans de telles circonstances. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme, malgré sa connaissance de la loi, malgré sa vie d'exemplarité, eh bien, il y avait un vide dans son cœur, il y avait quelque chose qui manquait, et c'est vrai pour tout le monde. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu, il y a un vide, et ce n'est pas sa connaissance, ce n'est pas son plan social, l'argent qu'il peut gagner, qui peut combler ce vide. Il a besoin d'aller vers Jésus, et il y va. Ce que je note, c'est qu'il y va. Il y va de nuit, le verset 2. Il vint vers Jésus de nuit. Pourquoi ? Parce qu'il avait honte de ce que les autres, ses collègues, pourraient penser de lui, parce que Jésus était vu comme un imposteur, comme quelqu'un qui détournait le peuple des synagogues, qui annonçait un message qui semblait différent, mais Jésus est venu annoncer la grâce. Et ce que je remarque, c'est qu'il vient quand même, malgré la peur de ce que les autres peuvent penser, il le fait de nuit, mais il persévère. Et c'est peut-être un premier pas pour lui. Et c'est courageux ce qu'il fait. Et c'est bien. Et moi, je vous encourage, si vous vous approchez de Dieu, à persévérer, à faire des pas de foi. Peu importe ce que vos amis peuvent penser, considérer, en tout cas, lui, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur des autres. Peut-être il a eu un peu honte parce qu'il l'a fait de nuit, mais en même temps, il est allé quand même voir Jésus et frapper à la bonne porte. Quelqu'un vous dira « Pourquoi vas-tu avec ces fanatiques ? Pourquoi continues-tu à aller à l'église ? Pourquoi perds-tu ton temps avec ces personnes qui disent qu'ils croient ? Mais toi, qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois seulement ?» Et il a dépassé tout cela, il a fait le pas de la foi. Je remarque aussi que Nicodème cite un certain nombre de choses qui sont exactes sur Jésus, même s'il n'a pas encore une connaissance très approfondie. Il peut dire premièrement, que Jésus est un docteur venu de Dieu, donc il reconnaît que son enseignement vient de Dieu, qu'il est inspiré. Il reconnaît que les miracles qu'il accomplit viennent bien de Dieu, contrairement à déjà certains autres pharisiens. Vous savez que Jésus était accusé de faire des miracles, non pas au nom de Dieu, mais que c'était Belzébul, par Belzébul, le prince des démons, qu'il faisait des miracles. Donc il avait cette accusation sur lui. Encore aujourd'hui, certains disent que les miracles, c'est terminé et que c'est Satan qui agit. Mais tout cela, ce sont des imaginations des hommes. Jésus, donc, faisait bien les miracles de Dieu. Cet homme, Nicodème, le reconnaît, il a raison. Jésus est un docteur, Jésus fait des miracles. La troisième chose qu'il dit, c'est que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît que Dieu approuve et accompagne le ministère de Jésus. Bon, ce sont des éléments justes, on va dire, ce sont des éléments descriptifs. Il voit des choses et il fait une analyse et il les dit. On pourrait dire que tout est juste, mais sur le plan religieux, c'est une connaissance religieuse. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on dirait la connaissance d'un credo, une confession de foi. Par exemple, beaucoup de gens confessent « Je crois en Dieu, le Créateur Tout-Puissant, le Père de celui qui a créé les cieux et la terre. » Voilà un credo, une confession de foi. Parce qu'ils savent que Dieu existe, parce qu'ils croient que Jésus aussi est mort à la croix. Mais ce n'est pas encore une foi qui est activée, qui est vivante. Ça peut être juste, en fait, une connaissance sur les choses de Dieu, sur la Bible, sur la religion. Je discutais il y a quelques années avec un prêtre qui était au séminaire en fait catholique, qui se préparait à rentrer dans la prêtrise, et il avait une très grande connaissance des choses de Dieu. Beaucoup plus que moi à l'époque. Il connaissait beaucoup de choses sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus. Il connaissait beaucoup de choses extraordinaires. Mais néanmoins, quand je lui pose cette question, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Et il me dit, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vous rendez compte qu'on peut avoir des connaissances sur les choses, on va dire, qui sont dites dans la Bible, qui sont des vérités, qui sont importantes, mais en même temps ne pas avoir de relation vivante avec Dieu, de ne pas savoir si on est sauvé, de ne pas savoir si on a la vie éternelle. C'est-à-dire, on passe à côté des bénédictions, de choses extraordinaires. Alors, c'est un peu le cas de cet homme. Il est, entre guillemets, croyant, mais il lui manque une relation avec Christ. Vous savez que même dans nos milieux chrétiens évangéliques, certains sont nés dans des familles chrétiennes, ils ont un peu suivi, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Je pense à un ami que j'ai connu il y a bien des années. Il était né dans de familles chrétiennes, et puis il arrive à l'âge de 17 ans, 18 ans, 20 ans, et il ne s'est jamais engagé, il ne s'est pas engagé vraiment avec le Seigneur. Et il me disait ceci, oui, mais moi, je suis de tradition évangélique. Un petit peu comme on dirait, je suis de tradition catholique ou je suis de tradition protestante. Mais il n'y avait pas la nouvelle naissance. Il n'y avait pas une rencontre personnelle avec Dieu. Il n'y avait pas une repentance, une transformation. Eh bien, cette personne, au bout d'un certain temps, eh bien, comme il n'y a pas eu l'expérience, eh bien, elle n'est plus venue. Elle est restée loin de l'Église et je ne sais pas si aujourd'hui eh bien elle est revenue à Dieu, je ne sais pas. C'est quelque chose de réel. Donc, tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on ne peut pas connaître Dieu. C'est le problème de Nicodème. Il a une connaissance intellectuelle qui est juste, qui est bonne, mais la connaissance intellectuelle n'est pas la foi véritable, la foi qui sauve, la foi dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Et c'est là où on rencontre l'opposition entre la chair et l'esprit. Parce que Nicodème comprend les choses de Dieu selon la chair, mais Jésus va lui expliquer les choses de Dieu selon l'esprit. Et il va falloir qu'il naisse de nouveau pour saisir les réalités spirituelles. Quand on comprend les choses de Dieu selon la chair, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne la connaissance, ça nous donne l'intelligence. Ça peut faire même des théologiens. Il y a aujourd'hui des théologiens qui sont très approfondis dans la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance de Christ comme sauveur. Mais ils ont une connaissance, on va dire, intellectuelle, exactement comme Nicodème, de la foi chrétienne, de ce que Jésus a fait, des enseignements qui sont contenus dans l'Écriture, sans que cela ait un impact réel sur leur existence. Quel drame! Nous ne voulons pas passer à côté de ces choses-là. Alors Paul écrit dans 1 Corinthiens 8, au verset 1, « La connaissance enfle, la connaissance nous égare, si elle n'est pas canalisée dans l'Esprit de Dieu, mais l'amour édifie. » La connaissance seule ne suffit pas pour nous faire rencontrer Dieu. Bien sûr, il nous faut connaître, comme Nicodème, des choses sur Dieu, mais ce n'est pas cela qui sauve. J'ai lu cette illustration d'un explorateur, un savant, qui était en Afrique et il devait traverser une rivière. Et donc, il y avait un batelier qui faisait la navette. Et le savant est monté dans l'embarcation. Il a considéré le batelier, c'était un Africain, et lui a posé cette question. Il lui dit, mon garçon, est-ce que tu connais les mathématiques? Et puis le garçon, il n'avait jamais entendu parler de mathématiques, il dit, non, je ne connais pas. Mon pauvre garçon, tu perds un quart de ton existence. Alors l'embarcation continue sa traversée. Un peu plus loin, le savant lui demande, mais est-ce que tu connais au moins l'astronomie? Puis l'enfant dit, non, je ne connais pas. Mon pauvre garçon, tu perds la moitié de ton existence. Alors l'autre, il se sentait un peu diminué. Mais le savant lui dit, mais au moins, est-ce que tu connais la philosophie? Puis le petit garçon, il regarde avec des yeux ronds, non, jamais entendu parler. Mon pauvre garçon, tu perds les trois quarts de ton existence. Alors il se sentait vraiment diminué petit à petit. Et à un moment donné, il y a, sur la rivière, il y a un soubresaut, la barque chavire et tout le monde tombe à l'eau. Et l'enfant demande à l'homme qui vient de tomber, le savant, il lui demande, est-ce que tu sais nager? Et l'homme dit, non, je ne sais pas nager. Alors l'enfant lui dit, tu perds les quatre quarts de ton existence. Parce que, frères et sœurs, on peut connaître beaucoup de choses dans bien des domaines. Et c'est bien. Et on n'est pas contre cela. C'est très bien. Mais si on ne connaît pas Jésus comme sauveur, on est perdu. Et on peut perdre la vie. Parce que ça, c'est l'essentiel. On passe à côté du plus important. Pourquoi? Parce que la connaissance peut vous donner des informations justes sur Dieu, sur Jésus, mais ce n'est pas la connaissance qui va vous sauver, c'est une relation personnelle avec Jésus. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, on est comme cet homme qui ne sait pas nager et qui est plongé dans l'eau, eh bien, il est condamné à mourir noyé. La connaissance ne vous apportera pas le bonheur. La connaissance ne peut pas vous apporter la paix. La connaissance ne peut pas vous apporter la vie éternelle. La connaissance peut vous apporter des informations importantes sur qui est Jésus, ce qu'il a fait, mais maintenant, il faut vivre l'expérience. L'expérience que Jésus appelle la nouvelle naissance. Donc c'est le deuxième point. On a vu dans un premier point que Jésus, donc plutôt que Nicodème a une approche charnelle, lui, il s'approche de Jésus comme si c'était un rabbin, quelqu'un qui peut communiquer des choses de Dieu, mais Jésus va maintenant lui présenter l'approche spirituelle. Alors, quelle est l'approche spirituelle? Eh bien, c'est au verset 3. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, on rentre pleinement dans la vision spirituelle de ce que Dieu veut pour nous. C'est une expérience de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas limité à la connaissance. On peut savoir des versets, on peut savoir des vérités sur Jésus, on peut connaître la morale chrétienne et puis vivre de cette manière-là, etc. Mais la nouvelle naissance, en fait, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est la vie de Dieu en nous. Et ça, c'est un miracle. C'est comme un miracle d'une guérison, c'est comme un miracle d'une délivrance. En fait, c'est la vie de Dieu qui jaillit dans notre cœur. Je vous donne une image pour illustrer cela. Si on parle de botanique, on prend par exemple une fleur, on va la couper et on va l'analyser, on va en discerner la texture, on va peut-être voir les pétales, comment ils se développent, le nombre. On va avoir une certaine connaissance de cette fleur en analysant, et puis même on peut la mettre dans un cadre, lui donner un nom, parler de la tige, des feuilles, etc. On a une connaissance. Mais la même fleur, si on la voit dans les champs, eh bien, elle va s'épanouir, elle va réagir au soleil, elle va réagir à la pluie, elle va dégager un parfum. En fait, elle dégage de la vie. Mais si vous la coupez, vous pourrez toujours l'analyser, mais il n'y a plus la vie dans la fleur. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est ça. La nouvelle naissance nous permet de réagir en fonction de ce que Dieu nous dit, en fonction des circonstances que nous vivons, de dégager aussi un parfum, le parfum de Christ. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle naissance. En fait, ce parfum, c'est la vie de Dieu en nous. Le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. C'est-à-dire que ce parfum de Christ, nous le portons avec nous et nous le transmettons autour de nous. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons donc, si nous sommes nés de nouveau, la vie de Christ qui dégage ce parfum. Alors Nicodème, voyez qu'il a du mal, lui, à raisonner selon l'esprit, puisque au verset 4, il revient exactement comme il était au début, c'est-à-dire le raisonnement charnel. Il dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on peut naître physiquement une deuxième fois ? Non. Raisonnement qui n'aboutit à rien, qui est limité. En fait, il faut se rendre compte que la pensée de l'esprit est tellement éloignée de la pensée de la chair à ce moment-là qu'ils ne peuvent pas cohabiter. En fait, la pensée de l'esprit, c'est une folie pour la chair. 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Voilà Nicodème. Il est un homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui, en fait, réagit selon la chair, les principes terrestres. « Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il ne peut les connaître. Il a besoin, en fait, que son intelligence soit transformé par l'action de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui vous voit prier par exemple, il va dire « Mais tu perds ton temps, à quoi ça sert de prier ?» Il n'a pas le raisonnement spirituel. Quelqu'un qui vous voit aller au culte le dimanche, il vous dit « Mais pourquoi tu vas perdre ton temps le dimanche matin ? Tu ferais mieux de rester à la maison, de faire une grasse matinée, de profiter. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une vision spirituelle. Il analyse selon les choses de la chair. » Donc nous aussi, avant d'être chrétiens, avant d'être nés de nouveau comme Jésus l'enseigne, eh bien nous vivions selon la chair, nous avions nos principes, profiter de la vie, l'égoïsme, l'orgueil et toutes ces choses vaines. Mais moi-même, comme je suis né dans une famille chrétienne, mes parents m'emmenaient à l'église, et avant que je ne vive l'expérience de la nouvelle naissance, moi je suis né de nouveau à l'âge de 17 ans, suite à une rencontre avec Christ, une rencontre avec le Seigneur. Mais je me rappelle qu'avant, quand je venais à l'église, avant d'être né de nouveau, eh bien pour moi c'était un fardeau. C'était un fardeau de venir aux réunions, c'était un fardeau de chanter les cantiques. Mais prier, j'en parle même pas, prier c'était... j'avais pas envie de prier. Pourquoi ? Parce que je vivais selon la chair. Et la chair, en fait, n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas lire la Bible, prier, méditer, passer du temps à servir et toutes ces choses. Bien sûr, je venais quand même. Par exemple, je venais, mais quand c'était le moment des chants, je chantais du bout des lèvres. Je voyais bien autour de moi qu'il y avait des chrétiens qui chantaient de tout leur cœur. Et je voyais bien la différence que moi, je ne chantais pas de tout mon cœur parce que mon cœur n'était pas en Christ. Mon cœur était perdu, j'étais éloigné de Dieu. Et je chantais, je croyais des paroles que je chantais, mais c'était selon la chair. Je n'étais pas encore né de nouveau. Et le jour où je suis né de nouveau, ça s'est passé donc j'étais en déplacement à Royan, dans l'église de Royan, suite à un don spirituel qui, le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur et j'ai compris qu'il existait vraiment et qu'il voulait parler avec moi et entrer en relation avec moi. J'ai été convaincu de péché ce jour-là, J'ai réalisé que ma vie était éloignée de Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés. Eh bien, je suis né de nouveau dans un culte. Et je suis sorti du culte, je savais que j'étais né de nouveau. Eh bien, j'avais envie de chanter, j'avais envie de prier, j'avais envie de lire la Bible. Et les choses de Dieu étaient pour moi rafraîchissantes et j'étais béni. C'était tout différent. C'était quelque chose, c'est une expérience qui vous fait entrer en contact avec les choses spirituelles. Et quand vous les comprenez par l'esprit, eh bien, vous les comprenez, en fait, comme Jésus dit, de la bonne manière. Mais tant qu'on n'est pas né de nouveau, pour prier, pour lire la Bible, pour servir, etc., eh bien, ça va être un fardeau pesant. C'est pourquoi il nous faut naître de nouveau pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de disciples, d'ailleurs, ont abandonné Jésus parce qu'il raisonnait selon la chair. Par exemple, un jour, Jésus enseigne sur sa chair et son sang. Il dit « Quiconque ne mange la chair du Fils de l'homme et ne boit son sang ne peut avoir la vie éternelle. » C'est un enseignement hautement spirituel. Mais pour les auditeurs, ils étaient charnels. Et ils ont compris ces paroles, un peu comme Nicodème, d'une manière littérale. Et ils ont dit « Mais ce qu'il dit n'a pas de sens. Manger la chair, boire le sang, ces paroles sont trop dures. » Voilà leur réaction, c'est une réaction de rejet. Et à partir de ce jour, ils ont abandonné le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas suivre le Seigneur si on est selon la chair. Parce que la chair va tellement se heurter aux principes spirituels que vous n'allez pas suivre. Alors, ils ont abandonné, Jésus les a laissés, on prie pour que Dieu, bien sûr, les ramène. Mais si notre pensée n'est pas transformée par l'action du Saint-Esprit, si à ce moment-là les disciples ne reçoivent pas la révélation, la compréhension, que la chair et le sang, en fait, ce sont déjà une représentation du pain et du vin et du sacrifice de Jésus que nous allons commémorer donc par la suite, s'ils n'ont pas cette claire représentation spirituelle par une révélation de l'Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont quitter le Seigneur. 2 Corinthiens 10:5, Paul en parle. Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Qu'est-ce que c'est ces raisonnements? Qu'est-ce que c'est cette hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Ce sont nos raisonnements selon la chair. Ces raisonnements-là sont tellement opposés à Dieu que nous sommes en conflit avec Dieu. Et il dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et c'est uniquement comme ça que nous pouvons comprendre la parole par l'esprit. Ou la pensée de Dieu, c'est que nos pensées, en fait, sont maintenant soumises à la pensée de Dieu. Autrement dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mon raisonnement, mais le tien, non pas mes paroles, mais les tiennes. Il y a toute une transformation qui s'opère par l'œuvre de Dieu. Un troisième point maintenant, c'est qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est au verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus explique qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Il dit il faut naître d'eau et d'esprit. Alors naître d'eau, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau, en fait. En réalité, c'est une reprise d'une prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 25, où déjà Ézéchiel, bien des années avant la venue de Jésus, annonce la nouvelle naissance. Et il dit ceci. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Ézéchiel 36, 25. C'est Dieu qui parle. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Vous notez bien que Dieu parle d'une eau, une eau qu'il va verser. « Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ça, c'est un élément important, c'est que la nouvelle naissance va changer notre cœur. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et enfin, au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, on trouve trois éléments. On trouve l'eau pure, on trouve le cœur régénéré, transformé, et on trouve le Saint-Esprit qui donne la vie. Jésus reprend deux de ces trois éléments quand il dit « Si un homme ne naît d'eau, on reprend « Je répandrai sur vous une eau pure. » Donc l'eau, c'est une image. Et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Et maintenant, l'esprit, c'est la réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naître de nouveau sans une action de l'Esprit dans notre cœur qui donne la vie à notre cœur, et notre cœur est maintenant nouveau. Voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. Ça consiste à naître à la vie spirituelle. Pourquoi Jésus parle de la nouvelle naissance ? Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Effectivement, nous sommes nés séparés de Dieu. Moi-même, même si je suis né dans un foyer chrétien, et peut-être c'est votre cas, vous avez été enseigné dans les choses de Dieu, mais vous n'êtes pas chrétien pour autant. Il y a un moment donné où on a notre décision à prendre. Et en tant que... Moi, j'étais donc né dans un foyer chrétien, eh bien, bien sûr, j'ai entendu parler de Jésus, des choses de Dieu, etc. Mais tant que je n'étais pas né de nouveau, j'étais encore séparé de Dieu, j'étais encore perdu. Ça, c'est la condition de l'homme selon la chair. Jésus dit, tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. On est comme aveugle et on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On est donc limité. C'est uniquement quand on vit cette expérience qu'on entre dans la dimension spirituelle. L'Esprit donc va créer la vie. Alors on peut voir, on est libéré de notre vision faussée. Et maintenant, Dieu nous permet de comprendre avec la vision spirituelle. Et puis, on peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire on a accès à la vie éternelle, au paradis, à la présence de Christ. La Bible est complètement incompréhensible si vous raisonnez avec la chair. Vous allez vous heurter à trop de difficultés. Par exemple, quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui ? Selon la chair, ça n'a pas de sens. Et vous allez même vous faire avoir des problèmes. Quand les disciples discutent entre eux pour savoir, mais quel est le plus grand ? Et Jésus leur dit, vous voulez savoir qui est le plus grand ? Et il présente un petit enfant. Et il dit, si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tout ça, ce sont des notions qui sont incompréhensibles pour la chair terrestre. C'est uniquement par l'esprit que l'on peut saisir qu'est-ce que Jésus veut enseigner, l'humilité, qu'est-ce que Jésus veut enseigner par rapport au royaume. Et si nous abordons les choses d'une manière humaine, nous sommes à côté du plan de Dieu. Vous voyez, c'est bien expliqué au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair », c'est l'enseignement donc de Jésus. « Ce qui est né de l'esprit est esprit ». Il y a un fossé immense entre le mode de vie de la chair et le mode de vie de l'esprit. Ce sont deux modes de vie. Tous nous sommes nés selon la chair. Ça, c'est notre naissance naturelle. Nous avons tous eu une première naissance. La chair vient en premier, mais le spirituel vient en second. Quand nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est triste, frères et sœurs, c'est quand nous avons connu la nouvelle naissance et que nous retournons à la chair. C'est le problème des Galates, au chapitre 3, verset 3, Paul leur explique. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, il s'adresse à des croyants. Vous avez commencé par l'esprit, c'est-à-dire vous avez connu la nouvelle naissance, vous vivez dans l'esprit. Vous connaissez les choses de Dieu. Voulez-vous maintenant finir par la chair ? Ça veut dire un retour en arrière. Ça veut dire un retour à un raisonnement impropre au royaume de Dieu, parce que les Galates, des croyants, eh bien, ils vivaient selon la loi, ils remettaient les principes de Moïse en œuvre, la circoncision, etc. Eh bien, c'est comme si un croyant décide de retourner selon les principes du monde, selon les principes impropres au royaume de Dieu. Alors, qui sont ces croyants, comme les Galates, qui retournent selon la chair ? Eh bien, c'est par exemple un chrétien qui préfère les choses du monde plutôt que les choses de Dieu. Il retourne en arrière. Vous avez un exemple avec Démas qui était plus attaché, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, l'amour du monde, l'amour des choses terrestres. Quand il y a une émission, par exemple, qui pour vous est votre émission préférée, et qu'en parallèle il y a la prière ou la réunion de prière, et que votre choix se porte sur ce qui plaît à la chair plus que ce qui plaît à Dieu, eh bien vous êtes en train de nourrir la chair. Vous êtes en train de nourrir de retourner en quelque sorte en arrière. Donc, quand on est un chrétien qui vit selon la chair, eh bien, pour nous prier va être un fardeau, pour nous lire la Bible va être un fardeau, pour nous les cultes ça va être un fardeau, Pour nous, l'enseignement de la parole, ça va être un fardeau, etc. Pourquoi ? Parce que les choses de l'esprit n'apportent pas la satisfaction à la chair. Les choses de l'esprit, il dit Jésus, c'est celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça va nourrir votre âme, votre être spirituel. Et c'est pourquoi il y a une telle opposition, il y a une telle, un tel conflit entre la chair et l'esprit, c'est que la chair ne peut pas combler l'esprit, l'esprit ne peut pas combler la chair. Et ce qu'on nourrit deviendra toujours le plus fort. Vous voyez, par exemple, dans le désert, il y a deux sortes d'oiseaux. Dans un article, j'ai lu cela, un auteur disait ceci, qu'il y avait deux oiseaux dans le désert. Il dit, il y a le vautour qui, lui, il se nourrit des cadavres. Il se nourrit des cadavres. Et c'est ainsi qu'il se développe. Mais sa nourriture, c'est pourri. Et puis, il dit, dans le même désert, il y avait aussi le colibri qui, lui, se nourrit des fleurs. Et c'est ainsi qu'il se développe. Et ça, c'est une bonne nourriture. Ainsi, tout dépend de ce dont on se nourrit. Si on se nourrit de la parole de Dieu, si on se nourrit des choses spirituelles, eh bien, notre âme va se fortifier. Mais si on se nourrit des choses mauvaises, comme le vautour, eh bien, c'est la chair qui va grandir en nous. Et ça fait qu'on aura du mal à vivre selon l'esprit. On ne pourra pas du tout même. C'est pourquoi Jésus dit, au verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Pour Jésus, c'est donc un impératif. C'est même le seul moyen, si on veut changer de vie, c'est de naître de nouveau. Il n'y a pas d'autre issue. On ne peut pas par nos efforts, on peut se dire, bon, je vais faire ça, je vais m'imposer, mais ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut un changement intérieur. Et ça, c'est Christ qui le produit. On ne peut pas changer la chair, frères et sœurs. La chair, il faut la crucifier. C'est dit comme ça dans Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Voilà, si nous ne voulons pas être malheureux, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre issue que de crucifier la chair. Un chrétien qui ne crucifie pas la chair, il sera toujours malheureux. Parce qu'il ne vivra pas selon l'Esprit, il ne marchera pas selon l'Esprit. Mais quand on a crucifié la chair, quand on est passé par la nouvelle naissance, on ne voit plus comme avant, on a une vision spirituelle, on ne comprend pas comme avant, on a un amour dans notre cœur pour les frères, pour les sœurs, on ne marche pas par la vue, mais maintenant on marche par la foi, donc tout est différent. On ne croit plus comme avant. Regardez le verset 12, par exemple. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Vous ne croyez déjà pas ces principes-là, mais quand ça va être plus poussé, comment vous allez croire? Eh bien, quand nous sommes nés de nouveau, nous pouvons croire toute la parole de Dieu, nous la recevons par la foi, donc Dieu travaille nos cœurs. Maintenant, comment naître de nouveau? Un dernier point. Jésus évoque le serpent des reins à partir du verset 14. Il dit, voilà, comme Moïse a élevé le serpent des reins, évidemment, le peuple, à l'époque, avait péché et par sa désobéissance, s'était éloigné de Dieu. Alors, Dieu a envoyé des serpents brûlants pour piquer le peuple. Mais en même temps, il a donné à Moïse la solution. Il a dit à Moïse, sur une perche en bois, tu vas construire un serpent des reins que tu vas mettre en hauteur. Et quiconque regardera vers le serpent, tous ceux qui ont été piqués, eh bien, ils auront la vie sauve. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de repentance et de foi. Nous savons que nous sommes tous pécheurs, comme si nous avions été piqués par des serpents, le serpent du péché. Mais néanmoins, à la croix, Jésus est mort. Si nous nous repentons de nos péchés, si nous disons « Pardon Seigneur » pour tout le mal que nous avons fait, nous le reconnaissons sincèrement. Et si nous regardons avec foi vers l'œuvre de la croix, eh bien, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Ça, c'est le miracle de la conversion, du salut que Jésus propose. Mais peut-être quelqu'un dira, moi je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas pécheur. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué. Mais en réalité, ce n'est pas cela. On a tous péché, soit en pensée, soit en action. Mais on est né pécheur et c'est notre nature qui doit être transformée, notre nature pécheresse. Donc la seule solution, c'est la croix. On va conclure maintenant. Et j'aimerais prier pour vous. Peut-être quelqu'un dit, ben, moi j'ai commis trop de péchés, je ne vois pas comment Dieu pourrait me pardonner. Mais justement, Dieu est venu pour pardonner tous les pécheurs. Il n'y a pas de péchés qui sont trop grands. Le Seigneur vous aime. Pensez peut-être que, mais pourquoi Dieu s'intéresserait à moi? Moi, je ne m'intéresse pas à lui, je ne vois pas pourquoi il s'intéresserait à moi. Mais Dieu s'intéresse à vous. C'est pourquoi il vous tend la main. C'est pourquoi, d'ailleurs, quelqu'un vous a invité à venir ici. C'est parce que Dieu vous aime et parce qu'il a un plan pour vous. Peut-être vous pensez, mais moi, je suis insignifiant, je ne vaux rien. Au contraire, la parole de Dieu dit, vous avez une valeur infinie. Vous valez plus que tout l'or du monde. Jésus dit qu'il a versé son sang précieux pour votre pardon, pour que vous ayez la vie éternelle. Vous avez la valeur du sang de Christ. Alors, je dirais que tout le monde doit naître de nouveau, comme Jésus le dit, il faut. Et tout le monde peut naître de nouveau, c'est possible, parce que Jésus a dit, quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Quiconque, c'est vous, c'est moi. Donc, je dirais que c'est une nécessité, mais en même temps, c'est possible pour vous. Cela dépend uniquement de vous, parce que du côté de Christ, c'est fait. Jésus ne force personne. Mais est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous voulez changer de vie? Accepter le Seigneur?